Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. Aujourd'hui avec des chroniques et un blind test, il sera consacré au comédien Nicolas Cage pour le film Un talent en or massif. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Pour toi Manu, c'est un film.
Et oui, c'est My Favorite War, un docu d'animation qui nous vient de Lettonie.
Et toi Guillaume, tu nous fais un rattrapage avec un film de Prime Video.
C'est ça, c'est le dernier film d'Adrian Lyne, c'est Eau profonde.
Quant à Marine, elle va nous parler de À l'ombre des filles d'Étienne Comard, mais nous commençons avec I comme été, les grandes vacances en Corse où l'été ne guérit pas toutes les blessures.
Avec vous, j'ai du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
J'arrive pas, j'ai pas d'inspiration ici, ça marche pas. Ça m'intéresse pas en fait, la beauté.
Ça, c'est pas la beauté. La dernière fois que j'ai dit ça, je me suis mangé les couilles.
Bienvenue en Corse, son inénarrable accent, ses paysages à couper le souffle, la torpeur des après-midi, dans un petit village niché au cœur des montagnes. I comme été, qui signifie les comètes en langue corse, et vous excuserez mon accent, vous emmène suivre les trajectoires fugaces de quelques habitants de Tola, village situé dans la vallée de Prunelli, près d'Ajaccio, des habitants qui se connaissent, se croisent, se retrouvent le temps d'un été. Le film prend ainsi la forme d'une chronique sociale qui, à travers divers personnages, dépeint une Corse moderne, assez loin de l'image à la fois romantisée et diabolisée que le cinéma français propose souvent. Une succession de tableaux composés de plans fixes et de longs plans séquences où les personnages parlent de leur vie et de leurs aspirations, qu'ils aient 10 ans ou 90 ans. There is one thing.
Ton père qui l'arrête, les poussettes dans le dos. S'il veut jouer au con, il m'a trouvé.
Pascal Tagnati, également acteur dans le film, a mêlé ses comédiens aux habitants du village qui forment une figuration, comme il le dit lui-même, naturelle et autonome pour un mélange de fiction et de réel qui fonctionne très bien. Le cinéaste lui-même corse propose pour son premier long métrage un portrait plus vrai que nature et haut en couleur de l'île de beauté au travers d'une petite communauté dans laquelle se tissent en creux les rivalités, les amours, les fantasmes et les espoirs.
I comme été est en salle depuis le 20 avril. Une jeune fille acquiert la liberté de penser en Lettonie dans les années 70 sous l'ère soviétique. C'est My Favorite War.
This is Cinérama.
Et ça, c'est clair.
My Favorite War s'ouvre sur ces bonnes paroles en voix off. Un dicton dit « Heureux sont ceux qui n'ont pas à faire de choix ». En grandissant, j'ai essayé de comprendre si cela pouvait être le cas, car j'ai grandi dans le pays, soi-disant, le plus heureux de la planète, et tous les choix ont été faits à ma place. Alors, ces mots sont proférés par la narratrice qui est aussi la réalisatrice. Ilse Burkowska-Jakobsen revient sur son enfance en Lettonie soviétique. Elle retrace son trajet sur près de 20 ans, de la petite enfance à son entrée dans l'âge adulte, en pleine guerre froide, alors dans un pays où l'endoctrinement, véritable sport national, a pour vocation de museler une population entraînée tout au long de sa scolarité à maîtriser les armes à feu. L'équation élève égale soldat n'a rien de caricatural. Elle révèle le plan parfaitement organisé par l'ex-URSS. Le vrai visage du régime soviétique au fil des gouvernements en place est décrit avec précision et effroi sous la forme d'un témoignage de la cinéaste qui évite toute tentative d'édulcoration en dépit d'un dispositif surprenant. En amont, elle s'est retrouvée donc piégée par son sujet puisqu'il n'existe pas d'image d'archives, ou d'image démontrant en toute objectivité ses propos et sa vision de la Russie dans les années 70-80. Afin de contourner la fiction, alors sans s'y soustraire totalement, elle emprunte une voie qui a fait ses preuves et qui devient très courante, de l'image manquante de Ritipan à Valse avec Bachir de Harry Folman, le documentaire d'animation, un procédé qui peut s'offrir des libertés narratives et esthétiques là où une reconstitution historique se retrouve phagocytée par des contraintes, à commencer par les événements factuels qui ne posséderont jamais la véracité d'une image d'archive ou d'un témoignage filmé.
I am a
human being. I am a girl, and I want to be alive. I want to love.
Le recours au dessin animé traditionnel est original hein, dans une orientation alors plus pédagogique que didactique. Hein. Pédagogique car attractif pour un public néophyte, à commencer par le jeune public, enfin, à partir de 12 ans, hein, auquel le film est en partie destiné. Aussi effrayant et édifiant soit-il, hein, My Favorite War privilégie l'expérience intime, n'étant jamais figé dans sa critique d'un système autoritaire qui présente des similitudes avec l'actualité récente. Les dessins réalisés par Svein Nyhus, un illustrateur jeunesse en Norvège, hein, possèdent une étrangeté, mélange de froideur et de douceur, avec des personnages aux expressions tristes et finalement inquiétantes. Conçus par l'artiste Laima Puntul, les décors baignent dans une atmosphère grisâtre en adéquation avec une animation statique qui convient très bien au sujet. Les scènes de groupe à l'école, hein, notamment lorsque les personnages se déplacent comme des automates, font froid dans le dos et traduisent en fait de manière frappante le concept même de régime totalitaire. La grande histoire alors, se mêle aux souvenirs familiaux de Hilde qui évoque la figure résistante de son grand-père et la soumission de ses parents, membres du Parti communiste. Mais surtout, elle relate ses années d'apprentissage à l'issue desquelles elle va se libérer donc, d'une idéologie guerrière pour aiguiser son sens critique, hein, sa volonté de s'en sortir pour devenir journaliste, ce qu'elle est en fait, elle n'est pas que cinéaste, elle est aussi journaliste actuellement, en Norvège, hein, puisque le film était une coproduction entre la Norvège et la Lettonie. My Favorite War, à travers l'autoportrait d'une combattante pour la paix et la liberté, est un beau documentaire sur l'histoire de la Lettonie, hein, dont nous ne connaissons que très peu de faits par manque d'informations, occultés par une propagande hein, qui a merveilleusement fonctionné pendant très longtemps. Voilà un témoignage indispensable, alors dominé par une esthétique séduisante et cohérente.
My Favorite War, documentaire d'animation, est en salle depuis le 20 avril. Au fond du trou artistique, Nicolas Cage accepte de faire acte de présence chez un milliardaire pour une somme rondelette et du même coup œuvrer pour la CIA. C'est un talent en or massif de Tom Gormican et ça va nous donner l'occasion de jouer un blind test.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Nicolas Cage, je vous adore.
Y a-t-il des fans de Nicolas Cage ? Moi, je n'en suis pas, mais s'il y en a, il pourrait être intéressé plus que je ne l'étais par Un talent en or massif, film dans lequel il a le premier rôle et pour cause, eh bien donc il joue son propre rôle. Et la dernière fois qu'on l'a vu à l'écran, eh bien c'était avec un cochon dans Pig. C'était toi, Manu, qui nous en avait parlé, hein, un film plutôt auteuriste.
Plutôt réussi même, en fait.
Faut dire qu'il est comme ça, Nicolas Cage, capable de tourner auprès de David Lynch comme dans un navet intersidéral. Et en regardant sa filmographie, on voit bien qu'elle n'est pas exemplaire et loin d'être homogène. Dans Un talent en or massif, on est confronté un Nicolas Cage qui est conforme à l'idée qu'on s'en fait au travers des médias. Au début du film de Tom Gormican, Cage est dans l'impasse, il n'a plus de grands rôles, ou s'il a des grands rôles, eh bien, il n'a plus de grands films. C'est ainsi qu'il cherche à tout prix eh bien, obtenir un rôle qui pourrait non seulement lui permettre de travailler, ce qu'il aime beaucoup faire, hein, mais aussi éponger des dettes. Le Nicolas Cage qui est présenté à bien la cinquantaine, hein, comme le vrai, il est excentrique, omnubilé par sa carrière, au point de laisser de côté sa fille de 16 ans, qu'il dit pourtant aimer plus que tout. Alors il a encore une relation avec son ex-femme qui tente de lui faire entendre eh bien, qu'il doit changer, décider à raccrocher, changer de comportement et à éponger ses dettes. Il décide de faire figurant dans une soirée d'anniversaire chez un mania de l'huile d'olive pour un cachet de 1 million d'euros.
On a un nouveau projet.
Et ça parle de quoi hein ?
Tu pars dans le sud de l'Espagne où tu es invité à la fête d'anniversaire d'un gentleman très fortuné.
Je ferai jamais ça.
Nick, c'est payé 1 million.
Je vais le faire. C'est quoi le nom du mec à cette maison ?
Ravi.
Alors, le Ravi veut que je saute sa femme ou il veut que je le voie sauter sa femme ? C'est hors de question, vous comprenez ? C'est pas Bruno.
C'est moi, Ravi.
Nick Cage.
Nicolas Cage ?
Waouh !
Putain, c'est cool !
Je suis trop content que vous soyez là.
C'est censé être moi ? C'est grotesque ?
Donc, direction l'Espagne. Alors jusque-là, tout va bien. On peut s'amuser du costard taillé à la vedette américaine en manque de travail. On parle quand même de quelqu'un qui a tourné donc, avec David Lynch, avec Scorsese, avec De Palma. Mais passé l'autodérision, la comédie entre dans une autre dimension. Le milliardaire espagnol est un de ses plus grands fans, mais aussi considéré donc par la CIA comme un dangereux criminel. Et l'agence américaine eh bien, va donc demander à Cage de jouer les agents, un peu comme il le ferait dans un film, hein, finalement. On imagine qu'il va sortir les flingues le moment venu. Et c'est ainsi ainsi que la fiction prend un coup d'accélérateur. D'autant que pour complexifier ce scénario des plus basiques, le milliardaire et son hôte, alors les deux deviendraient presque les meilleurs copains du monde, eh bien, les deux se prennent donc d'admiration l'un pour l'autre et souhaitent faire un scénario ensemble. L'occasion pour le réalisateur de critiquer les blockbusters, les comédies sentimentales et les films décérébrés que Nicolas Cage connaît bien, lui qui pourtant tient pour meilleur film de l'histoire Le cabinet du docteur Cagliari. Alors on ne peut pas dire que la comédie n'est pas plaisante, hein, avec ici et là quelques trouvailles, mais la mise en scène n'a pas vraiment d'allant. Le scénario volontiers alambiqué peut aussi perdre le spectateur qui ne serait pas un fan de l'acteur, car il y a quand même quelques bonnes références sur le comédien et ses rôles. Alors, victime, par exemple, d'une course-poursuite, qui doit courir pendant que l'autre le couvre, eh bien, c'est Cage, évidemment, qui court si vite dans Benjamin Gates, même si l'acteur souligne qu'il a été doublé pendant tout le film. Alors, outre une réflexion sur ce qui fait un bon film et la mise en avant d'une personnalité d'acteur, celle de Nicolas Cage, Un talent en or massif reste un film curieux, pas forcément indispensable. Nicolas Cage cabotine, mais pouvait-il faire autrement en grossissant sa personnalité médiatique ? Alors, les fans de l'acteur américain seront sans doute ravis de le voir ainsi, sombrer, plier face à la critique ou se battre. Les autres pourront trouver le temps long, tellement long qu'on en oublie le sujet du film, à part qu'il s'agit d'un Nicolas Cage de plus, lui qui a fait déjà plus de 100 films. Un talent en or massif est donc un film qui est en salle depuis le 20 avril et ce film nous donne l'occasion de jouer un blind test, messieurs, autour de la filmographie de Nicolas Cage qui est imposante, mais j'ai choisi quand même des titres faciles à trouver, en tout cas si vous êtes fan, ça risque d'être facile. Premier extrait donc de ce blind test.
Qu'est-ce qui t'amène dans cette ville ? Tu participes à un congrès ?
Non. J'ai le projet de me suicider à l'alcool. J'ai liquidé mon compte épargne, mon American Express. Je vais aller vendre ma voiture.
Alors, tu crois que ça va te prendre combien de temps pour ton suicide à l'alcool ?
Peut-être un mois.
Trouvé.
C'est Living Las Vegas de Mike Figgis.
Oui, film sorti en 1995. Après s'être fait licencier par la société de production où il travaillait, Ben, scénariste alcoolique, très alcoolique, décide de partir pour Las Vegas. Il prend une chambre dans un hôtel miteux à proximité des bars, hein, qui sont toujours ouverts, afin de finir sa vie dans l'alcool, comme on l'entend ici. Et il rencontre Sarah, que l'on entend aussi, une prostituée qui va l'héberger pour le suivre dans sa déchéance. Pourquoi j'ai commencé avec celui-ci ? Parce que
Oscar.
C'est l'Oscar, oui, du meilleur acteur. Donc, en 1996, seulement 101 000 entrées en France, selon les chiffres que j'ai pu consulter. J'en étais très surpris. Deuxième extrait de ce blind test consacré à Nicolas Cage.
Alors, on a quelque chose en commun ? On connaît bien nos flingues.
Il n'y a qu'une chose qu'on n'a pas en commun. J'en ai rien à cirer de la vie, contrairement à toi.
Ah oui, ça fout les boules. Tu t'éclates pas souvent, hein.
Pourquoi tu te joins pas à nous ? Et c'est le terrorisme, là au moins on peut tout faire péter, c'est plus fandard.
Écrase !
Sur ton sac de fermer ta grande gueule !
Grâce à moi, l'un des fléaux de la Bible va s'abattre sur Los Angeles comme elle le mérite. Mais je veux bien l'épargner, cette ville de merde, si tu nous laisses partir, mon frère.
C'est des conneries.
Oh oui, ça y est, je vois, tu crois que je bluffe, hein ? Eh ben oui, peut-être. Mais peut-être pas, après tout. Parlons sérieusement, qu'est-ce que tu ferais si j'étais en cabane ? Tu ferais tourner ta femme et ta môme en bourrique. Au fait, comment va ta fille ? Elle est bonne maintenant, ta Jenny, chérie, le petit abricot. Il est mûr ?
D'accord. C'était facile.
C'était Volteface de John Woo.
Oui, film sorti en 97 avec John Travolta, la version française évidemment qu'on entend ici. Castor Troy, dangereux terroriste, est tombé dans le coma à la suite d'un affrontement avec Sean Archer, agent de la CIA. Et grâce à une intervention chirurgicale, eh bien, Archer prend le visage de Troy pour faire avouer au frère de ce dernier l'emplacement d'une bombe. Mais Troy sort du coma et prend à son tour le visage d'Archer. Film qui a marqué son époque, hein, 1,6 million d'entrées en France.
Ce qui est assez génial, c'est qu'en fait on pouvait s'attendre à ce que Nicolas Cage fasse que des rôles entre guillemets académiques après l'Oscar très récent de la Living Las Vegas, Et il va enchaîner les productions de Jerry Bruckheimer ou les films de John Woo. Et en 3-4 films, va devenir la star d'action de la fin des années 90. C'est assez étonnant, quoi. Et dans des bons films en plus, des bons films d'action.
C'était encore sa bonne période. Troisième extrait de ce blind test.
Tu sais que tout le monde utilise seulement 10% du cerveau.
Oui.
Un sorcier peut manipuler la matière parce qu'il possède la capacité d'utiliser la totalité du pouvoir de son cerveau.
Alors, la sorcellerie, c'est de la science ou de la magie?
Oui et oui. Pour l'heure, ton sortilège numéro 1, ce sera pour combattre, apprendre à faire le feu. Pourquoi les molécules chauffent-elles?
Parce qu'elles vibrent.
Tout ce que l'on voit est dans un état constant de vibration, d'où l'illusion que tout est solide. Mais comment on transforme ce qui paraît solide en une explosion de flammes? On accélère la vibration par la volonté. Étape numéro 1, on se vide l'esprit. Numéro 2, on visualise les molécules. Étape numéro 3, on accélère leur friction.
Trouvé.
C'est de l'apprenti sorcier, alors un film extrêmement bizarre parce que c'est adapté d'un dessin animé de Disney avec Mickey. Et là, on se retrouve en plein New York avec donc des acteurs live comme Nicolas Cage. Mmh.
Mais avant Mickey, j'ai lu que c'était quand même l'adaptation cinématographique du poème du même nom de Goethe. Voilà. Donc Balthazar Blake, qu'on entend, est un grand sorcier, donc il vit à Manhattan. Effectivement, il tente de défendre la ville contre son ennemi juré. Ne pouvant y arriver seul, eh bien, il engage David Stutler, un garçon apparemment ordinaire qui a pourtant un vrai potentiel, mais qui se débrouille, à l'évidence, pas très bien. Ces deux associés improbables vont tenter de stopper les forces des ténèbres. Quel beau menu. 738 000 entrées en France. Quatrième extrait de ce blind test consacré à Nicolas Cage.
À quel âge t'as commencé à fumer, toi?
Je crois que j'ai dû commencer lorsque j'avais 4 ans. Ma mère a canné d'un cancer des poumons un an avant.
Quelle marque est-ce qu'elle fumait?
Des Marlboro, pareil que moi. Je crois bien que ma mère et mon père aussi, c'est le tabac ou l'alcool ou les deux qui les ont tués.
C'est triste tout ça, quel malheur.
Tu tortures pas, chérie. D'ailleurs, je les connaissais à peine, tu sais. Question et de parentage, j'ai pas été très gâté. À mon procès, mon avocat arrêtait pas de parler de ça. Il a été très chouette, ce vieux. Il s'est bien battu.
C'est trouvé.
C'est Laure et Lula, David Lynch.
Oui, film sorti en 90. C'est Laure et Lula, donc deux jeunes amoureux fuient Marietta, la mère de la jeune fille qui s'oppose à leur amour. Ils fuient aussi toute une série de personnages dangereux et mystérieux qui ne cessent de les menacer. C'est la Palme d'Or du Festival de Cannes 90 et c'est presque 1 million d'entrées en France. Dernier extrait du blind test.
Tu as une femme, un gosse, une maison à Margate, une maîtresse dans un appartement. Ça gagne bien d'être flic, on dirait.
J'achète qu'en promotion. T'es qui, ma conscience?
Ça te serait utile. Est-ce qu'Angela est au courant pour Money?
Non, t'as raison, j'ai qu'à lui dire. Qu'est-ce que tu vas faire, me dénoncer encore?
Je t'ai donné une leçon ce jour-là. Tu n'as plus jamais volé à l'étalage.
Non, j'ai jamais été coincé, c'est tout. Elle est heureuse, ma femme, crois-moi.
Tu dis qu'Angela est heureuse, moi je dis qu'elle est dans le brouillard. Peut-être que si elle connaissait les règles du jeu, elle pourrait s'amuser aussi.
Écoute, si Angela connaissait les règles, il n'y aurait plus de jeu possible. Règle numéro 1, Angela doit ignorer toutes les règles. Je suis pas comme toi, Kevin. Je suis incapable de baiser la même femme pendant 20 ans. C'est antinaturel.
Terry adore me parler pendant l'amour. La nuit dernière, elle m'a appelé depuis un hôtel.
Trouvé.
C'est Snake Eyes de Brian De Palma.
Voilà, ce sera ton seul point du blind test et c'est sur Brian De Palma voilà, que tu apprécies tant.
Je ne pouvais pas perdre sur ce point.
Et tu as trouvé dès les applaudissements. Donc ça, il y a un côté sans doute un peu magique, une relation chamanique avec ce réalisateur. Le secrétaire d'État à la Défense est mortellement blessé lors d'un match de boxe. Eric Santoro, policier corrompu, va s'efforcer de sauver sa réputation ainsi que celle de son ami Kevin Dune, qui est chargé de la sécurité du secrétaire d'État. Et son copain s'était absenté au moment du coup de feu. 1 million d'entrées en France pour ce film Snake Eyes qui terminait ce blind test consacré à la filmographie de Nicolas Cage. Un chanteur lyrique accepte d'animer un atelier de chant dans un centre de détention pour femmes. C'est à l'ombre des filles d'Étienne Comard.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
C'est votre première fois en prison?
Oui.
Vous savez à peu près où vous mettez les pieds quand même?
Y a quoi là-dedans?
C'est mon diapason.
Vous pouvez pas rentrer avec ce truc. Hein.
Bonjour.
Je suis chanteur lyrique et on m'a proposé de mener des ateliers de chant en détention, donc je trouvais que c'était un beau projet.
Luc est un chanteur lyrique réputé qui traverse une crise existentielle et transporte avec lui une lourde culpabilité. Un peu pour s'oublier, un peu pour se donner bonne conscience, il accepte de proposer des cours de chant à des détenues dans une prison pour femmes. Elles ont entre 25 et 70 ans, certaines sont résignées à passer le reste de leur vie en prison, d'autres s'enferment dans les médicaments, l'une est attendue dehors par sa fille adolescente, l'autre couvre les murs de sa cellule de photos de bimbo dénudées en attendant sa libération. toutes vont apprendre à chanter, ou du moins essayer. Si les détenus sont enfermés entre quatre murs pour purger leur peine, Luc, lui, est confiné dans un deuil difficile qui l'a privé de son envie de chanter.
Le premier groupe avec Janine, Margena.
Je peux aller avec nous, c'est possible.
Donc Margena avec Catherine, s'il vous plaît.
Non.
Pendant trois semaines, qu'est-ce que vous souhaiteriez chanter ?
Herbert Léonard, moi j'aime bien.
Bodyguard ?
La famille Bélier.
Je pense que ça serait quand même bien de montrer aux autres filles votre travail, ce dont vous êtes capable.
T'es sûr ?
Il y a quelques mois sortait Un Triomphe, une comédie dans laquelle Cadmerad jouait un acteur qui apprenait à des détenus à jouer la comédie, un film qui brillait par le grand nombre de ses chromosomes XY. À l'ombre des filles, rééquilibre tout cela en faisant pencher la balance côté féminin. À noter également que l'ambiance n'est pas franchement à la fête hein, dans ce deuxième long métrage résolument dramatique de Étienne Comard, dont le premier long métrage, Django, racontait la vie mouvementée de Django Reinhardt sous les traits de Reda Kateb. Alors, précision importante qui fausse un peu la lecture du film, le choix a été fait de montrer une prison flambant neuve, même si les problèmes de grève du personnel et de moyens matériels sont quand même mis en avant, chaque détenu a une cellule qui ressemblerait presque à un studio parisien, même en mieux équipé. Le réalisateur explique que l'ambiance de la prison est volontairement lumineuse pour contraster avec les scènes de la vie de Luc, très sombre, souvent nocturne, puisqu'il est, lui, en liberté, certes, mais enfermé dans sa propre culpabilité. À cela s'ajoutent d'autres choix formels, comme ceux de tourner en pellicule et au format 4 tiers, ce format carré qui s'impose à nous comme les quatre murs d'une cellule.
L'amour est enfant de bohème.
Franchement, ça te sert à quoi ? C'est des femmes qui n'intéressent personne, on n'en propose jamais rien.
Tu t'es dit que dans ce monde de brutes, il fallait consacrer un petit peu de son temps aux parias ?
Tu n'es qu'un bourgeois merdique qui voilà, vient ici bon. Nous dire ce qu'on doit faire.
Dans À l'ombre des filles, on n'en raconte jamais trop. D'ailleurs, on colle presque toujours au corps de Luc, à son récit, à lui. On ne reste jamais ou presque en prison avec les détenus. On ne saura pour la plupart jamais ce qu'elles ont fait pour être là. On ressent un peu, c'est vrai, hein, l'impression d'une succession de caméos de comédiennes connues qui s'inviteraient en prison jouer des détenus. Impression toujours un petit peu gênante que l'on avait aussi ressentie dans le film La Tolarde avec Sophie Marceau. Plusieurs comédiennes ici sont non professionnelles néanmoins et mélangées à des comédiennes de métier. On retrouve Vierle Beatons, que l'on a découverte en France sous les traits de la chanteuse country dans Alabama Monroe. Avzia Herzi également, qui joue une jeune femme qui s'oublie dans les anxiolytiques et les somnifères. Et Agnès Jaoui, sans doute l'interprète la plus marquante à contre-emploi en détenue violente, hantée par son crime. Toutes sont face à Alex Lutz, qui décidément nous propose ces dernières années une filmographie plurielle et complexe, puisqu'on l'aura vu aussi bien dans Guy, interprété un vieux chanteur à succès, dans 7ème set, joué un tennisman professionnel, dans Vortex de Gaspard Noé, et aujourd'hui donc en professeur de chant lyrique, une interprétation, encore une fois, très haut de gamme.
De toute façon, une fois dehors, tu vas nous oublier.
Ce sera difficile, je crois.
À l'ombre des filles est en salle depuis déjà le 13 avril. Adaptation de Patricia Highsmith Eau profonde et le nouveau film d'Adrian Lynn, pas dans les salles, mais sur une plateforme depuis mars. Et c'est toi qui fais ce rattrapage, Guillaume.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Pourquoi t'es le seul homme qui veut bien rester avec moi ?
Je sais pas.
Mais tu restes.
Je reste.
Eau profonde ou Deep Water en version originale. Ben alors voilà, rien que le nom du film est tout un programme. On a mi-chemin entre le film d'attaque animale en direct ou vidéo hein, du milieu des années 90 et le thriller Hollywood Night un peu sensuel des années 90 aussi, hein, qui passait en deuxième partie de soirée sur TF1. Le titre fait même penser à celui du thriller, un peu érotique aussi, grâce au bikini d'Elisabeth Hurley, du film le plus oublié de Catherine Bigelow, Le Poids de l'eau. Ben d'ailleurs, cet héritage déjà pesant, ben, en fait, ben, on n'était pas si loin, hein, parce que Eau profonde, eh ben, c'est le dernier film en date d'Adrian Headline, le roi de la fesse éclairée au néon, des amours torrides qui voient conclure leur protagoniste sous la pluie en contre-jour, du banilon qui frit sous la pression du rouge à lèvres ou encore de la sexualité extra-conjugale trouble. Sexualité plus ou moins vectrice de bonheur d'ailleurs. Chez Line, on alterne entre passion ardente et interdit, que ce soit par différence de milieu, flash dance, d'âge, la nouvelle adaptation de Lolita, ou de point de vue, proposition indécente. Aux profondes et les tourments existentiels de ces deux principaux protagonistes, c'est aussi l'occasion de se rappeler des débats autour de ces questions-là. Adrienne Lyne avec son célèbre Liaison fatale ou encore Proposition indécente, tous deux couronnés de succès en leur temps. Est-il un défenseur des mœurs libérées ou légères, un esthète érotomane et fier de l'être ou un moraliste puritain qui foudroie celui qui ne couche pas dans le droit chemin? Il est vrai que l'on peut s'interroger sur la morale que l'on pourrait tirer de ces films tant on s'éloigne de la fable pour mieux regarder l'Amérique dans les yeux. La production compliquée de Liaison fatale et ses remaniements de scénario y seront pour beaucoup dans ce flou plus ou moins entretenu de perception. C'est important de le rappeler car Eau profonde va justement faire un écho au propos de Liaison fatale ou d'Infidèle et pour le meilleur en ce qui concerne sa conclusion, qu'on dévoilera bien sûr pas ici.
Pourquoi maman est tellement différente quand il y a d'autres personnes?
Je crois que c'est sa façon d'être.
Est-ce que tu m'aimes?
Je suis fou de toi.
Tu t'es pas lassé?
Non.
Et le fait que ça la gêne pas du tout de s'afficher avec tous ces types devant nous, tu vaux mieux que ça.
Elle est différente. C'est ce qui me plaît chez elle.
Je veux que ma vie soit une source de plaisir.
T'as pas envie de m'expliquer pourquoi t'es pas rentrée de la nuit?
Non, pas vraiment.
C'est pas un jeu, Melinda.
C'est un jeu depuis le début.
Vic et Melinda Van Allen forment un couple aisé de la Nouvelle-Orléans dont le mariage s'écroule sous le poids de la rancœur, de la jalousie et du doute. Alors d'un côté, il y a Vic, un petit génie qui élève des gastéropodes et qui ne supporte plus que sa femme aille voir ailleurs et sans cacher ses frasques à leurs amis. De l'autre, il y a Melinda, une femme volcanique qui ne supporte plus le calme apparent de la vie de Vic et la manière tout aussi rangée qu'il semble vouloir la mener. Forcément, tout cela va vite escalader dans la démesure car nos deux héros sont des êtres intelligents et peuvent se révéler particulièrement retors. Alors que leur provocation et manipulation mutuelle s'intensifie, les choses se transforment rapidement en un jeu du chat et de la souris mortel lorsque les amants de Melinda commencent à disparaître. Alors plusieurs questions s'imposent. Est-ce que le paisible, intelligent et posé Vic peut être un tueur? Est-ce que Melinda va rejoindre ses compagnons de partie de jambes en l'air dans la tombe? Pourquoi Vic reste auprès d'une femme qui semble le mépriser et qui se comporte en public comme la dernière des traînées, embarrassant son mari comme sa jeune fille? Décidément, l'amour est bien complexe chez notre réalisateur anglais. Lui qui n'avait plus rien fait depuis Infidèle en 2002 et qui avait pourtant valu à la sublime Diane Lane une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice, ne semble pas avoir changé d'un pouce et ses thématiques et sa mise en scène. Tout au plus, cette dernière est plus fade parce qu'il n'y a plus de néon ou de contre-jour, mais la platitude de la normification des films pensés et ou mis en ligne sur une plateforme VOD. Malgré cela, la filmographie de Lyne a su entretenir un amour non démenti de la part de son public, comme en témoigne par exemple il y a 2 semaines la récente interview de Fabrice Duvels au micro de Capture Mag à l'occasion de la sortie de son propre thriller érotique Inexorable et dont le Belge ne cache pas son goût tout à fait assumé pour les films de l'anglais. Duvels a apprécié l'ambiguïté des rapports entre Vic et Melinda, qui permet au film de maintenir un suspense bien mieux construit et accrocheur que son esthétique. Eau profonde est une sorte en fait d'anti-liaison fatale dans sa volonté de ne pas forcément aller dans le sens de la morale puritaine américaine et réserve quelques surprises qui rappellent une époque pourtant pas si lointaine où on se permettait d'aller assez loin dans des péripéties, quitte à mordre la ligne du vraisemblable. Mais si vous aimez le cinéma de De Palma, cela ne vous gênera nullement. Cet anglais qui a commencé par la publicité n'a jamais oublié que le plus bel argument de vente d'un produit, c'est aussi une belle femme bien mise en valeur. Et si le film se révèle tristement timide sur l'aspect charnel, alors qu'il en joue pourtant toutes les cartes à l'ancienne, on ne pourra qu'apprécier de retrouver la sublime Ana de Armas, vous savez, celle qui, en seulement 10 minutes de présence à l'écran, volait la vedette et la raison d'être de mourir peut attendre. En face, Ben Affleck sait jouer le contretemps idéal du mari inquiet et bafoué de Gone Girl de David Fincher et nous régale avec ses métaphores à base d'escargots bien baveux. Alors, Eau profonde ne vous fera pas boire la tasse, mais un bon bain de minuit tout nu, c'est déjà mieux que rien.
Petite réaction de Manu.
Alors, déjà une première chose, le film a déjà été adapté au cinéma par Michel Deville avec Isabelle Huppert.
C'est vrai.
dans un film qui était assez remarquable. Et puis voilà, moi je lui ai dit, en fait, j'aime beaucoup ce film, en fait. Hein. C'est un film comme si le temps n'avait pas bougé. Et c'est un peu il filme très bien, je trouve, la vulgarité d'un monde bourgeois qui est en pleine décrépitude. Voilà. Et rien que pour ça, je trouve que le film, il est vraiment intéressant. C'est pas un thriller passionnant en tant que thriller, mais je trouve qu'il filme un monde qui s'écroule. Et je trouve qu'il réussit vraiment un beau retour pour moi.
Bon, c'est surtout une personne qui est décadente, on va dire.
Non, mais c'est la même la manière de filmer les lieux, très platement, très fadement. Il filme un milieu qui est très fade. Et je pense que c'est vraiment volontaire de sa part.
Eau profonde est disponible quand vous le voulez, puisque c'est sur la plateforme Prime Video.
Au revoir.
Mais pour quelle raison ?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre,
comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
On se retrouve la semaine prochaine et tu auras deux films, Manu.
Oui, à nouveau un dessin animé, hein, un film d'animation, Ma famille afghane, et puis un film français, Sentinelle Sud.
Moi, j'aurais vu un documentaire Ghost Song. À la semaine prochaine.